Stanislas Veillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Biofity, nous sommes avec vous donc au Large Mid Cap Event à Paris, vous rencontrez des investisseurs. Alors j'en ai vu quelques-uns effectivement sur les réseaux sociaux, ils sont assez inquiets, il faut le dire. Je vous transmets ces informations que j'ai pu lire ici ou là. Ils s'inquiètent de la situation de Biofity, de savoir effectivement ces autorisations notamment françaises et italiennes qui n'arrivent pas. On s'était vu il y a maintenant quelques mois. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui donc à ces investisseurs qui s'inquiètent sur l'état réel de la situation?
Alors, tout d'abord, la société va bien. La société est financée. Nous avons fait une annonce récemment. Signalons que nous avions une ligne de crédit de 10 millions de dettes non dilutives qui permet donc de porter à au moins fin 2019, si ce n'est début 2020, les liquidités de la société pour faire avancer le développement clinique des candidats médicaments Sarconeos et Macuneos. Nous avions une situation de cash fin 2017 de plus de 20 millions d'euros de cash et nous avons une dépense de cash d'à peu près 1 million d'euros. Donc vous pouvez faire le calcul, la situation de cash est tout à fait confortable et nous permet donc de faire avancer nos produits et de développer la société.
Ça c'est la partie cash, effectivement c'est la participation financière, mais les autorisations dont on parle, qui ne viennent pas de France et d'Italie, peuvent inquiéter. On se dit mais pourquoi Biofity, qui est une société française, n'arrive pas à avoir son autorisation? Ça fait un moment qu'on en parle.
Alors, c'est vrai que nous avons eu l'an dernier, et cela fait déjà maintenant presque un an, les autorisations de la FDA. Nous avons eu en suivant, au début de 2018, les autorisations de l'agence belge. Et donc, nous avons démarré l'étude clinique dans la sarcopénie avec le produit Sarconeos dans ces deux pays, et l'étude clinique avance. Nous avons donc dans l'étude observationnelle qui est le préalable à cette étude interventionnelle plus de 200 patients qui ont été recrutés dont une soixantaine qui sont prêts à passer de l'étude observationnelle à l'étude interventionnelle. Nous renforçons d'ailleurs les centres cliniques en augmentant le nombre de centres pour passer de 11 à 22, en particulier dans ces pays-là, aux États-Unis et en Belgique. En France et en Italie, pour des raisons différentes, nous n'avons pas encore les autorisations, alors que nous avions sollicité l'avis de l'Agence européenne du médicament sur le protocole clinique, sur le produit, et que l'avis avait été favorable. Nous avions tenu compte de l'ensemble des remarques de l'EMA avant de demander les autorisations en France et en Italie. Un an après, nous n'avons toujours pas ces autorisations. Je pense que c'est une question de temps. Ils prennent leur temps. Il n'y a pas de question de fond. Nous allons obtenir les autorisations dans ces deux pays, mais sans doute relativement tard. Et donc nous sommes organisés pour finalement atteindre notre objectif de recruter 334 patients dans cette étude, même si nous obtenons les autorisations relativement tard.
Ça veut dire que du fait de ce schéma administratif peut-être pas prévisible au départ, ce blocage pour l'instant, je dirais cette lenteur française pour prendre celle-là, vous allez avancer d'abord aux États-Unis?
Oui, et c'est ce que nous avons signalé, en particulier au marché. J'ai recruté un nouveau directeur médical, il est basé à Boston. Nous renforçons l'équipe clinique, elle va donc passer de quelques personnes à plus 5 personnes aux États-Unis en particulier pour accompagner le développement de l'étude SARA aux États-Unis et assurer finalement cette étude clinique SARA.
Ce qui veut dire que on peut imaginer que ça pourra peut-être aller beaucoup, enfin, plus vite aux États-Unis et que finalement vous aurez plus d'avancées aux États-Unis qu'en Europe ou en France.
Ça va plus vite aux États-Unis. Ça coûte plus cher, mais ça va plus vite. C'est déjà le cas. Plus des deux tiers des patients dans l'étude observationnelle sur les 200 sont recrutés déjà aux États-Unis. Indépendamment des autorisations, nous avions déjà les autorisations en Europe sur les études observationnelles. Donc les cliniciens sont plus efficaces, les centres sont mieux organisés et les autorisations sont obtenues plus rapidement. Donc la décision est rapidement prise. Donc nous nous adaptons à la situation qui est indépendante de notre volonté, qui est le fait que nous n'ayons pas encore l'autorisation de démarrer cette étude en France et en Italie.
Oui, parce que ce n'est pas toujours compréhensible par les actionnaires qui se disent, mais voilà, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, si ça n'arrive pas en France, c'est le pays de Biofitis, d'origine de Biofitis. Si ça ne va pas, ça n'arrive pas en France, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas qu'il y a un problème. C'est un sujet d'organisation du système en France par rapport à d'autres pays.
Oui, je pense que malheureusement en France, et vous le savez, il y a eu des événements très graves qui se sont passés dans une étude clinique de phase 1 qui a conduit à une évolution de la réglementation pour encadrer les études cliniques qui conduit à un délai administratif beaucoup trop long pour des petites sociétés comme Biofitis. Je comprends la colère des actionnaires, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est premièrement répondre aux demandes, aux interrogations de l'agence française et ou de l'agence italienne, ce que nous faisons, et deuxièmement, de nous adapter pour que même si ce délai dépasse ce que nous avions prévu, nous arrivions à respecter notre calendrier le mieux possible.
Toujours de leur point de vue, il y avait des attentes sans doute de partenariat. Pourquoi il n'y a pas de partenariat aujourd'hui? Est-ce que c'est normal?
Alors, sur le partenariat, je pense que c'était avec vous que j'avais parlé de partenariat à la fin de la phase 2B de SARA dans la sarcopénie, si les résultats étaient positifs. Et je suis toujours sur cette même objectif qui est donc aujourd'hui à la fin de l'étude, fin 2019, début 2020. C'est, je dirais, le moment où, ayant démontré que Sarconeos améliore la mobilité chez des patients sarcopéniques, évidemment, des laboratoires industriels avec lesquels nous discutons, et nous avons donc une personne qui est très compétente, Manfred Horst, qui est directeur du business development, qui est en charge des discussions avec ces laboratoires qui se concrétiseront au moment où nous aurons ces résultats-là au plus tard.
Alors je me mets toujours du côté de ces actionnaires individuels qui, certains soulignent que, bah, par exemple, Novartis avance et se pose la question, est-ce que Biofitis va avancer assez vite?
Alors, il suffit de reprendre quand Novartis a démarré cette étude dans la sarcopénie et voir que nous sommes bien plus rapides que Novartis dans le développement de notre produit dans la sarcopénie. Donc, il faut raison garder. Sans parler de l'initiation du développement de la technologie de Novartis. Donc, nous avons rattrapé Novartis dans cette étude-là et nous sommes mieux armés, je pense, qu'eux, puisque l'étude clinique, telle qu'elle est structurée, ne comprend que des patients sarcopéniques qui ont des problèmes de mobilité. Hein, ce sont des marcheurs lents, ce qui n'est pas le cas de l'étude conduite par Novartis dans la sarcopénie, et a pour critère principal un paramètre de mobilité qui a été validé par l'EMA et par la FDA, qui est la vitesse de marche sur 400 mètres, ce qui n'est pas le cas non plus de l'étude conduite par Novartis. Donc, nous avons des arguments pour que lorsque nous aurons ces résultats, nous puissions convaincre d'autres industriels, évidemment, de s'associer au développement futur de ce produit au travers d'un cofinancement, par exemple, de phase 3.
Alors, un sujet qui est peut-être passé un peu à côté, c'est ce que vous avez fait dans la myopathie de Duchenne. Donc là, vous avez avancé de ce point de vue-là?
Alors, ça fait l'objet de très peu de communication, essentiellement une communication scientifique. Nous avons beaucoup de contacts avec des associations de patients aussi, de parents, hein, puisque ce sont des enfants qui sont atteints de myopathie de Duchenne, des petits garçons. Mais effectivement, peu d'explications sur l'évolution stratégique qui a conduit à développer Sarconeos dans la myopathie de Duchenne. Premièrement, le produit a démontré une efficacité dans différents modèles animaux de maladies neuromusculaires. Donc il y avait un potentiel qui, pour nous, sont une espèce d'accélération du processus de vieillissement. Et le fait d'activer le système rénine-angiotensine au travers du récepteur MAS, fonctionne aussi dans ces contextes de maladies extrêmement sévères pour améliorer la mobilité et d'autres fonctions. C'est le premier élément. Le deuxième élément, il est d'un point de vue d'enregistrement produit. Évidemment, dans une maladie orpheline, nous bénéficions d'appuis pour accélérer l'enregistrement produit. Et c'est ces appuis-là que nous espérons utiliser pour avoir un produit qui, à l'issue d'une étude dite MIODA, MIODA INT en particulier, pourra avoir un enregistrement en Europe et aux États-Unis.
De votre point de vue, comment peut revenir la confiance quand, dans un tweet, je lis de ne pas faire cette interview qu'on vient de faire tous les deux ensemble aujourd'hui, un actionnaire mécontent. Comment peut revenir la confiance pour vous ?
Je pense que je suis actionnaire aussi, hein, et je vois bien que mon portefeuille aussi est impacté, évidemment, par cette baisse du cours qui n'a jamais été aussi bas depuis l'introduction en bourse de Biofitis, qui est à des niveaux qui sont, si on regarde la capitalisation, inférieurs aux 55 millions qui ont été investis dans la société. Alors que, évidemment, ces études prennent du temps, peut-être plus de temps que pensé au départ, mais révèle quelque part toujours l'intérêt des produits de Sarconeos et ou de Makioneos dans la DMLA qui sont plus clairement établis maintenant qu'il y a 3 ans. Donc je pense que au-delà de ce que nous pouvons faire pour avancer d'un point de vue opérationnel le développement de la société, avancer dans le développement clinique des produits, il y a un autre effet qui est l'effet marché, sur lequel je n'ai pas de prise, mais qui, je pense, explique en partie finalement la baisse du cours. Et là, vous êtes sans doute mieux placés, ou des économistes sont sans doute mieux placés pour expliquer pourquoi le marché des biotech, en particulier des micro-caps, nano-caps, a baissé tant que ça et se trouve à des niveaux historiquement bas. La liquidité a baissé d'un facteur 10 depuis 2014-2015. Et donc, évidemment, les actionnaires individuels, les fonds spécialisés biotech français souffrent énormément. Les fondateurs qui ont mis leur énergie et leur motivation depuis souvent des dizaines d'années, une dizaine d'années, pour développer ces sociétés, en souffrent aussi. Et je pense que ça peut évidemment compromettre le développement de ces sociétés à moyen terme si les marchés ne rebondissent pas.
Donc c'est un sujet de place aussi.
C'est un sujet de place, et ce qui peut donner peut-être du baume au cœur, c'est de voir que si le marché parisien est impacté, le marché américain est euphorique. Et c'est absolument incroyable de voir le contraste qu'il peut y avoir entre ce marché américain qui croit dans le marché des biotechnologies, dans le fait que ces sociétés vont développer des nouveaux médicaments de thérapie innovante, alors que finalement, on est dans une déprime qui est délétère en France.
Merci Stanislas Veillet d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci.